Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans Spectateur, c'est le 34e numéro et au sommaire aujourd'hui, la revue critique de La véritable histoire d'Émilie Mersenne, la revue critique de 300 bisons et l'interview des metteuses en scène d'Orlando. Et pour parler de toute cette programmation en théâtre Cantor, avec moi, mes chroniqueurs. Quand je l'appelle, il annule tout de suite ses plans, y compris ses soirées nanars japonais. Adrien.
Je ne te permets pas d'insulter comme ça la culture japonaise, j'en connais une qui serait très déçue.
Lui, je l'ai recruté exprès pour son rire, mais je ne sais pas si le spectacle cette fois-ci se prêtait à rire. Clément.
Bonjour Marie.
Et enfin, une voix un peu rêveuse, tellement que sa propriétaire oublie parfois de parler bien dans le micro, celle de Maëlys.
Bonjour tout le monde. Bonjour Marie.
Alors Adrien, on commence avec toi et la véritable histoire d'Émilie Mersenne. La pièce est composée d'une cinquantaine de scènes, mais seule une trentaine est jouée, selon des choix déterminés plus ou moins par le hasard, par un spectateur, par le metteur en scène, par la capacité d'improvisation des acteurs. Alors moi, j'ai vu l'histoire d'Émilie qui a le droit à un vœu, qui demande l'omniscience, qui choisit de résoudre un problème mathématique encore irrésolu, qui reçoit les visites de son amie Rose et de son coloc Roberto, dont je pense qu'elle est un peu amoureuse. Le tout entrecoupé des rêves nocturnes d'Émilie. Et à la fin, Roberto meurt dans un accident idiot et Émilie perd inexplicablement son omniscience. On a bien vu la même chose.
On a bien vu la même chose, Marie.
Bon, alors pourtant, on y est allé à deux jours d'écart. Adrien, ce sera ta chronique tout de suite après une virgule et j'ai choisi The Logical Song pour une pièce fondée sur la logique mathématique.
La véritable histoire d'Émilie Mersenne est ainsi construite comme un objet informe que le spectateur ou l'acteur cherche en permanence à saisir, à travers cette gymnastique qui consiste à scruter l'endroit à partir de l'envers. Ce domaine où la philosophie et les mathématiques se rencontrent pour expliquer comment prouver, dire la vérité, accorder le discours et son objet, le réel et la parole. La véritable histoire d'Émilie Mersenne, discours littéraire sur une discipline scientifique, cherche à contredire les prétentions d'objectivité et d'absolue véracité de la discipline uniquement linguistique qu'est la logique. Voici le mot du metteur en scène qui éclaire notre lanterne sur une pièce qui se veut logique et loufoque et qui entend remettre en question les axiomes de la raison. Ah, on entend tout de suite les mauvaises langues, une pièce écrite sur un PC faite par les informaticiens, cette espèce éloignée de nous les littéraires, issue d'une branche dégénérée du buisson génétique darwinien, mais pourtant cousine de la nôtre à l'ENS. C'est le cousin noir, ou Warlord X Destructor pour les intimes sur WoW World of Warcraft. Pourtant, cela fait du bien de les voir au théâtre, cela nous fait même rire. Privé de toute pudeur littéraire, il n'hésite pas à pousser le ridicule jusqu'au bout. Les rêves d'Émilie et les scènes qui servent d'interlude sont généralement drôles, comme ce japonais qui déclame sur un ton de théâtre no alors que son collègue gesticule, allongé et caricature la danse contemporaine. Les dialogues de Racine au Phèdre sont parodiés et donnent une certaine légitimité littéraire à la pièce, mais pourquoi pas. Ces scènes sont effectivement ridicules à côté de la vie qu'Émilie mène au quotidien. Une vie bien moins intéressante, et finalement sans grand rapport avec ces scènes. Fondée sur une répétition d'un nombre de scènes limitées censées évoluer au gré du hasard, on se perd, et parfois aussi on s'ennuie et on trouve des longueurs. La protagoniste principale manque un peu de charisme, son personnage est assez plat et nous tape un peu sur les nerfs, tout comme son coloc qui agace à déconstruire systématiquement les mots d'Émilie, et son ami qui nous raconte sa vie, sans grand intérêt. À côté, les acteurs couteaux suisses enchaînent des rôles plutôt variés, et savent provoquer le rire dans l'ensemble. Euclide, Han Zhangwei, Héraclès, tout le monde y passe dans la partouze de l'histoire. Notera également la scène des vizirs qui nous rappelle avec finesse l'orientalisme européen. Tout cela produit un décalage frappant entre les scènes de la vie quotidienne d'Émilie et les scènes rêvées. On a l'impression d'une pièce écrite comme un programme informatique, une alternance de 1 et de 0. Autant de 1 que de 0. Et s'il manque quelque chose à cette pièce, c'est bien ce 1, cette unité perdue entre les chiffres. Je me suis demandé à la fin de cette pièce où avait-on voulu m'emmener. Car même le théâtre dit absurde, celui de Ionesco ou de Beckett, a une intrigue. L'action évolue derrière l'apparence d'immobilisme. Ici, tout se perd, les accessoires, les costumes, les dialogues et la voix de Dieu. Les appels au public aussi ne font pas avancer la narration et ne réussissent pas à relancer la machine du hasard. La remise en question de la logique et le refus des conventions dramaturgiques du théâtre ont bien créé un monstre inaccessible des mots mêmes du dramaturge de la pièce, mais ce monstre n'a pas été dompté. Les libertés prises n'ont pas été canalisées, l'essence du théâtre s'est peut-être un petit peu perdue. 2h30 de théâtre, c'était donc un petit peu trop. Mais on louera les intentions des auteurs qui, s'ils se sont un peu fourvoyés dans le labyrinthe de la logique, ont toujours essayé de nous faire rire.
Merci Adrien. Alors on va revenir un peu sur cette pièce, on va en discuter tous les deux, puisque je n'ai pas d'autres chroniqueurs à disposition. On est allé voir la pièce pas le même jour, donc théoriquement on n'est pas censé avoir vu la même chose. Je trouve quand même qu'en en discutant avec toi, je me suis aperçu qu'on avait quand même vu des choses assez similaires. C'est très bien, ça veut dire qu'on va pouvoir discuter.
Oui.
Tu disais que quand même il n'y a pas d'intrigue. Alors c'est vrai qu'il y a une intrigue de fond, un fil général pour les scènes de jour en tout cas. Que penser à ton avis de cette structure qui repose quand même énormément sur l'ellipse, sur les scènes répétées, beaucoup de répétitions? Une frustration supposée de ne pas voir toutes les scènes, on nous dit que d'emblée on ne verra pas tout, qu'il y aura des choix, etc. Et ça donne un spectacle qui est très long. C'est dérangeant ça?
Alors pour moi, oui, ça donne un spectacle qui est quand même trop long, puisque ces scènes, elles sont censées être répétées, mais plus elles reviennent, plus en fait elles sont déconstruites et sont censées être vues sous un nouveau jour par les spectateurs. Mais le problème, c'est que cette machine du hasard, à mon avis, ne marche pas tout à fait. Il y a de nombreuses scènes qui auraient dû évoluer, qui en fait restent sensiblement les mêmes. Et surtout, ce hasard, n'arrive pas à faire avancer l'action. Il y a un nombre de scènes, je dirais qu'il y a une douzaine de scènes qui se répètent, à mon avis. De temps en temps, des scènes non prévues, aléatoires, qui s'intercalent. Mais le problème, c'est que cet enchaînement des scènes, à mon avis, n'est pas logique, justement. Et certes, c'est une pièce sur la logique et qui veut aussi contredire un peu les axiomes de la raison et la logique narrative, mais au bout d'un moment, on se perd un peu dans cet enchaînement, dans cette répétition de pièces, et on sait plus trop. Moi, j'étais un peu perdu, je savais plus trop quoi penser. Je rigolais en fait dans l'instant, sur le moment même, parce que les acteurs, notamment les seconds rôles, sont très drôles. Mais je ne savais plus où me situer, en fait. Alors, s'il y avait peut-être un fil conducteur dans cette pièce, dans l'enchaînement des scènes, ce serait plutôt la recherche du théorème d'Emilie Mersenne, peut-être, qui a lieu une scène sur deux, puisque les scènes sont alternées entre scènes rêvées et scènes du jour. Mais finalement, même en posant des questions à cette voix, qui est censée être la voix... D'un dieu, peut-être, de Dieu.
Ouais. L'omniscient.
L'omniscient. Et bien, finalement, les questions ne répondent pas. Enfin, la voix ne répond pas aux questions d'Emilie Mersenne. Et en fait, je me demande où est-ce qu'on arrive, quel est le point de départ, où est le point d'arrivée. Et cette scène cet enchaînement de scènes, en fait, ne fait pas évoluer, à mon avis, soit l'action, soit l'intrigue de départ. Et on part dans beaucoup de directions différentes. Il y a beaucoup de pistes qui sont lancées avec ces scènes. Mais aucune n'est vraiment empruntée jusqu'au bout, à mon
d'accord,
avis.
D'accord, mais je suis assez d'accord là-dessus, au sens où, à la toute fin de la pièce, Émilie perd son don, son anneau, qui est censé répondre à ses questions de manière omnisciente, ne répond plus. Et c'est vrai que ça arrive très brusquement, c'est-à-dire qu'on nous a beaucoup promenés dans toute la pièce avec un certain nombre de scènes répétées, et il y avait toujours au moins ce fil conducteur d'Émilie qui pose des questions à son oracle personnel. Et à la fin, bim, comme ça, alors je sais pas, on nous dira que c'est peut-être... le hasard, l'espèce de coïncidence à la fois de la mort de Roberto et de son anneau qui ne fonctionne plus. C'est pas vraiment expliqué et ça tombe un peu comme ça, comme si il fallait quelque chose pour finir.
Alors je suis tout à fait d'accord, mais je pense que l'auteur de la pièce s'est peut-être un peu mélangé les pinceaux, c'est-à-dire qu'à vouloir trop théoriser peut-être et se baser sur une base strictement mathématique, en fait, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Si je puis dire, et du coup, ce qui fait le caractère littéraire d'une pièce et l'évolution progressive d'une narration, c'est perdu, puisque les scènes sont comme des entités uniques, des blocs de Lego un peu que le dramaturge ou le metteur en scène peut altercaler afin de faire à chaque fois une construction différente. Mais du coup, certes, les scènes peuvent être mélangées et créer à chaque fois une structure différente, mais il n'est pas dit que cette structure a vraiment une logique. Certaines scènes auraient peut-être ne pas dû être placées juste après tel événement. Enfin, l'agencement des événements n'est pas toujours justement logique parfois, et on se retrouve à avoir une scène de théâtre no ou autre chose, et puis juste après la mort de Roberto.
Alors justement, on va reparler des personnages. Alors toi, tu l'as trouvé énervant, Roberto.
Ouais, oui.
Moi, j'ai trouvé que ça allait. Je trouvais qu'il avait un petit côté... sorti de The Big Bang Theory, par exemple, quoi.
Mais, un mec un peu avec des lubies, c'est ça?
Ouais, c'est ça, un mec complètement hors du monde.
On le voit, il construit, il fait ses petites constructions. Là.
Donc, je serais plutôt tentée d'être indulgente avec lui.
Ah, oui.
J'étais même triste qu'il meure à la fin.
C'est vrai?
C'est quand même très soudain.
Ah, moi,
on
j'étais
l'a pas
content.
Revu,
Bien fait, Roberto.
Bien fait, Roberto. Donc oui, lui, je l'ai trouvé assez attachant. Le personnage de l'ange Gabriel aussi, avec sa manière de disparaître avec ses petits confettis.
Oui, alors lui, oui.
Ça c'était quand même drôle. Hein.
Moi, mon personnage préféré, c'était quand même un mec qui a déjà un physique super pour le théâtre et qui joue le japonais, qui joue aussi... qu'est-ce qu'il joue déjà ? Je crois qu'il doit jouer Han Feizai aussi, il joue peut-être Euclide. Et c'est un informaticien un petit peu frêle avec un visage carré. Et lui, il a une gueule, mais géniale quoi, pour le théâtre. Lui, il a un potentiel comique génial, rien que parce que déjà, il a des mimiques, il a une manière de parler. Il joue aussi la perruche au début, t'as peut-être vu cette scène ?
Non, t'as pas vu ?
Donc il enchaîne plusieurs rôles et à chaque fois, c'est réussi. Quoi.
Ouais, alors justement, il y a quand même une foule de personnages. C'est vrai que
on s'y perd un peu parfois.
Ouais, mais... bah, le personnage d'Emilie m'a pas forcément dérangé. Je trouve que t'es un peu dur avec elle. Ouais, j'ai pas eu envie de l'acheter à la fin. mais c'est vrai que globalement, j'ai trouvé que les scènes de nuit étaient plus réussies que les scènes de jour.
Oui.
Parce que très souvent, les scènes de nuit m'ont fait rire. Il y a ce côté, j'adore l'humour absurde et c'est parfait parce que c'est vraiment des petites scènes. Ça a pas besoin d'être expliqué.
C'est des sketchs en fait.
Voilà,
un peu.
C'est ça.
C'est des sketchs,
ça arrive, ça dure 5 minutes et ensuite ça repart. Parfois, ça revient sous une forme différente, je pense en particulier à ce texte, alors apparemment repris de Phèdre.
J'ai cru reconnaître, mais il faut vérifier.
Mais je pense que tu as raison, je fais confiance à ta culture littéraire, Adrien. Entre la femme et le lieutenant, qui est quand même répété souvent, rejoué, mais dans des modes
des
différents.
Des contextes différents.
Ouais. Je l'ai vu rejouer, par exemple, entre une espèce de gamine collégienne et... un espèce de petite Kaira. C'était assez drôle de voir jouer comme ça. Ou alors entre...
Il est drôle d'ailleurs, celui qui joue la Kaira. Il joue d'autres rôles, il le fait assez bien, informaticien, avec sa casquette sur le côté. Là. Bon, c'est un peu cliché, mais en même temps, il jouait là-dessus et c'était drôle.
Voilà, j'ai trouvé que les scènes de nuit étaient quand même plus réussies. Peut-être justement parce qu'elles ne se rattachent à rien. Ça arrive comme ça et puis c'est très vite évanoui.
Mais le problème, c'est est-ce que tu as pu les relier à quelque chose dans la pièce ? Alors, on dira que peut-être le but, c'est pas de comprendre parce que c'est des scènes rêvées, etc.
Oui,
mais moi, ça me gêne un peu quand même parce que c'est un peu trop facile.
D'accord, de prendre le parti pris
de dire c'est juste un rêve, ça n'a pas besoin d'avoir de... Pour moi,
c'est un peu trop contingent.
C'est un peu trop contingent, un peu trop facile. Et le théâtre, derrière, la contingence, elle est toujours prévue. Le théâtre, c'est l'essence de l'artifice.
Le problème, c'est que je pense qu'on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ces scènes. Est-ce que c'est juste des petits sketchs destinés à nous faire rire, auquel cas c'est plutôt bien fait ? Ou est-ce que c'est un genre de parabole dans lequel il faut chercher une signification profonde ? Je sais pas, je pense à la scène des jumeaux et des jumelles, par exemple. C'est très drôle parce que les jumelles espionnent chacune un jumeau, mais en fait, elles sont jalouses l'une de l'autre, donc elles espionnent le jumeau de l'autre, tout en sachant que l'autre leur ment.
Donc,
et ça tombe à la fin comme une espèce de morale. Les deux jumelles se mentent l'une à l'autre, elles le savent depuis 10 ans, mais elles ne se disent rien et tout. Alors on se demande, signification profonde par rapport à des rapports entre les personnages de jour, Émilie, Rose, son amie, Roberto, son coloc, ou est-ce que c'est juste que ça arrive comme ça ? Peut-être qu'on est un peu perdu de ce point de vue-là.
T'as réussi à faire des connexions en fait
Ouais, j'ai essayé d'en faire naturellement, on est des lettreux, on essaie de trouver des liens entre tout, tu vois.
Des réseaux, c'est la mode.
Trois parties, trois sous-parties, 27 sous-parties. Mais voilà, donc d'une manière générale, j'aurais plutôt tendance à dire que oui, les scènes nocturnes en tout cas étaient plus réussies, il y en a eu vraiment des très drôles. On parlait d'Agathe d'Ange, l'empereur, et ses
visières. Pour revenir à cette scène était réussie à mon avis, puisque. J'avais l'impression qu'il y avait une tonalité très européenne, paradoxalement, tu sais, de l'orientalisme de la fin du 19e, début 20e, avec ces noms très exotiques. Alors ça, c'était très bien rendu parce que on sentait vraiment le fantasme européen pour l'Orient derrière.
Il y avait tout un côté un peu 18e siècle, lettres persanes, on va chercher un espèce de sultan complètement tyrannique.
Oui, exactement, ça aussi, ouais. Voilà, donc ça, c'était bien réussi et cette scène revient d'ailleurs. Elle revient.
Oui.
Alors par contre, est-ce que tu as trouvé qu'elle variait? Parce que pour le coup, j'ai pas senti de variation par contre.
Alors j'en ai senti au sens où la première fois qu'on voit, alors la première fois que je l'ai vu en tout cas, c'est l'empereur dans son grand manteau rouge, sa grande pourpre très impressionnante, et les trois vizirs qui s'inclinent devant lui. Et il y a une fois où je me rappelle, on revoit la scène et c'est le même acteur, mais baladé dans un caddie avec les trois autres. Et là, ça donnait plus l'impression que c'était des gens dans un asile de fous. Donc je trouve qu'il y avait des variations de ce point de vue-là.
D'accord.
Variations
plutôt
dans la répétition,
dans la scénographie alors.
Oui.
Que dans
voilà.
Les dialogues. Ouais, c'est vrai.
La base du texte reste la même, mais de même que pour Madame et le lieutenant, c'est rejoué, réinterprété d'une manière différente.
Alors là, par contre, ils changent les dialogues après.
Oui, ça c'est vrai.
Ici.
s'adapter légèrement. Bah, bien sûr, par exemple, la Kyra et la collégienne ne parlaient pas tout à fait comme c'était le genre. Mais je te kiffe.
Oui, bien sûr, oui. Donc, mais du coup, il y avait des scènes qui étaient à la parfois répétées au mot près, mais en fait simplement le décor et la scénographie changeaient. Et d'autres scènes où même le dialogue était revisité, réactualisé. Alors ça, c'était censé être joué aléatoirement, du coup.
Ouais, on se rend compte que c'était pas si aléatoire que ça.
Oui, bien sûr. Mais bon, après, l'idée n'était pas mauvaise, à mon avis, de peut-être de piocher dans un nombre de scènes limité, c'est-à-dire 30 sur 49. Les connexions entre les scènes auraient dû être plus évidentes, plutôt que de d'écrire des ensembles de sketchs qui sont drôles en eux-mêmes, en fait, mais qui peut-être ont du mal à se rejoindre.
Alors, un petit mot pour conclure, Adrien. Si je t'aurais emmené voir une nouvelle version, ou pas si nouvelle que ça, de la véritable histoire des mini-mersennes, est-ce que tu viendrais avec moi ?
Oui, si c'était un petit peu moins long.
Alors, je suis assez d'accord là-dessus. Je me pose la question à moi-même, de mon avis. Marie, retournerais-tu voir la véritable histoire des mini-mersennes ? Je pense que oui, malgré tout, parce que je me suis plutôt attachée au personnage, l'air de rien, à force de les voir répéter. Mmh. Et peut-être, effectivement, qu'en supprimant quelques répétitions, en particulier, j'avais vu une scène avec un facteur, par exemple, auquel je n'ai pas trouvé un grand intérêt. Je pense que, par exemple, c'est le genre de scène qu'on aurait pu élaguer sans que ça porte préjudice à la construction d'ensemble qui se voulait hasardeuse, ou en tout cas qui voulait mimer et imiter le hasard.
Bah, c'est juste que moi, ça m'a énervé à force de voir ces répétitions, et ça marchait pas, en fait, ça provoquait pas de plaisir du spectateur, tu vois ce que je voulais dire ?
Oui.
Ça avait peut-être un intérêt théorique dans la logique, mais c'était pas nouveau déjà comme méthode, et ça m'a pas procuré de plaisir en tant que spectateur. Donc, parfois, il faut savoir à l'ENS un peu mettre de côté les présupposés théoriques et...
Et revenir au fondamental qui est que on est là pour instruire et plaire.
Oui, voilà.
Merci Adrien. Chers auditeurs, nous restons dans cette opposition scène de jour, scène de nuit, à croire que c'était un peu la thématique de la semaine chez notre partenaire en scène, et on passe à 300 bisons. Un spectacle, je ne dirais pas pièce, car l'ensemble mélange trop musique, danse et pantomime. Après une catastrophe, les sons ont disparu de la surface de la Terre, deux archéologues les recréent avec des objets divers et des instruments étranges et les mettent à l'abri dans des bocaux, jusqu'à ce que des créatures nocturnes, qu'on croirait un peu sorties d'un film de Miyazaki, n'investissent le laboratoire, répandent les sons et recréer une forme de musique. Un spectacle qui a duré une heure à peine, très bref, très intense, un peu comme une locomotive qui passe. Après cette virgule, c'est à toi de nous donner ton avis sur le spectacle, Clément.
Alors, 300 bisons, une pièce avec beaucoup d'ambition. Une citation de Lautréamont sur le petit livret présentant l'œuvre et la volonté de nous faire vibrer avec de la création sonore. Et des ambitions peut-être un peu trop en contraste avec la durée de la pièce. Une heure, tout juste, ce qui, conjugué avec un rythme très lent, ne m'a pas donné le sentiment que la situation ait beaucoup bougé entre le début et la fin de la pièce. Et c'est à mon sens le véritable problème, la lenteur. Parce que les choses se mettent très lentement en place, pour un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur, qui plus est. Si la première recréation sonore, celle de la locomotive à vapeur, est extrêmement efficace, la seconde, le chant de je ne sais plus quel oiseau, m'a laissé plus que perplexe. Avant de parler de l'intrigue en elle-même, un autre point m'a beaucoup dérangé. Si je ne savais pas qu'il s'agissait de l'histoire de deux scientifiques tentant de recréer des sons, parce que le son a disparu de la Terre, je ne suis pas sûr que je l'aurais compris. Surtout que les passages qui sont dansés, les passages de nuit, bien que très beaux et très esthétiques, ne nous aident absolument pas à voir clair là-dedans. Et parce que cette intrigue, non contente de ne jamais s'offrir à nous, se permet même de décevoir notre horizon d'attente. Lorsque les deux scientifiques, au début de leur deuxième journée, nous refont le même gag qu'au début de la pièce, avec la mise en scène de la table et de la soupe, un petit grain de sel sonore brise leur routine, ce qui m'a alors beaucoup soulagé. Je me suis dit que l'intrigue avançait enfin et qu'un événement allait enfin perturber toute cette routine. Mais non. Et un fait révélateur, lorsque la pièce s'est terminée, le public ne l'a pas compris et il s'est bien écoulé 20 à 30 secondes avant que toute la salle ne se mette à applaudir. En fait, la pièce s'est terminée au moment où un semblant d'histoire avait l'air de se mettre en place. Et bon, on nous avait annoncé des recréations sonores, il y en a eu deux, et une seule de vraiment réussie. Quant aux 300 bisons, au milieu de tout ça, ben, je n'ai toujours pas compris où ils étaient.
Merci Clément. Alors, on va revenir justement sur ce que tu disais à l'instant sur ce travail de recréation des sons. Ce que je trouve en soi une très belle idée, c'est vraiment inventif et quand c'est bien fait, ça peut vraiment être spectaculaire. Mais là, justement, comme tu le disais, on nous vend un spectacle où on nous dit qu'il y aura recréation de beaucoup de sons différents et tout. Et finalement, en soi, quoi, on assiste, recréation du son d'une locomotive, très bien fait. D'une alouette, c'était ça le nom de l'oiseau que tu cherchais. Un peu moins convaincante, j'ai trouvé.
Je trouve que quand il fait bouger ses antennes là, pour trouver le chant d'oiseau, au moment, il était vraiment bien. Et en fait, après, il enregistre un son qui est un peu moins bien, je trouve. Donc, je sais pas si c'était fait exprès ou quoi.
D'accord.
Mais,
Et en termes de nombre, est-ce que ça vous a déçu que numériquement, il n'y ait que deux recréations sonores comme ça? Est-ce que vous attendiez à plus?
Qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça me dérange pas du moment qu'elles sont bien faites. Après, c'est vrai que je trouve que les instruments sur scène avaient une espèce de fort potentiel scénographique et donc c'était assez intéressant. Mais non, moi ça m'a pas... Plutôt vers la fin en fait, au niveau de la... Quand c'est la cacophonie, quand tous les bruits se libèrent, etc. Je m'attendais vraiment à ce que tous les bocaux descendent et que ça fasse vraiment quelque chose de cataclysmique plus là-dessus. En ça que j'étais déçue, quoi.
Moi j'ai été un peu déçue sur le nombre, effectivement. On nous avait vraiment annoncé qu'il y aurait des recréations sonores et j'ai vraiment eu le sentiment que... Bah, on nous avait fait miroiter... Beaucoup de virtuosité, beaucoup de choses différentes, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, moi, je me suis retrouvé vraiment, vraiment perplexe, en fait. Et puis, sur l'alouette, j'y reviens parce que ça m'a vraiment perturbé.
Il a été perturbé.
Ah oui, non, mais
explique-nous.
La première recréation sonore, celle de la locomotive, elle était extrêmement impressionnante parce qu'il faisait ça avec un vélo, avec une espèce de vélo, avec un balai brosse, des objets du quotidien. Et c'est en ça que j'ai trouvé vraiment impressionnant. C'est absolument pas des objets auxquels on aurait pensé. Il y avait un vrai travail, j'avais trouvé sur les objets en eux-mêmes. Tandis que pour la deuxième, j'ai pas compris ce que c'était que le truc là avec les antennes qui faisait du bruit. J'ai absolument pas compris ce que c'était. Je vois absolument pas.
On te proposait d'aller le tester à la fin, voyons.
Et oui, j'aurais peut-être dû. Mais voilà, j'ai absolument pas compris ce que c'était. J'ai trouvé que ça faisait vraiment perdre de la magie au truc, en fait, à la recréation.
Trop artificielle.
Voilà, peut-être.
Même si je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. Enfin, j'avais jamais vu cette machine bizarre. Donc c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de voir ça sur scène. On va reparler un peu justement de l'organisation de la pièce. Et Maëlys, tu parlais de bocaux. Alors voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément précisé pour les auditeurs qui n'ont pas vu la pièce. Sur le plateau, voilà, il y avait cette espèce de laboratoire, une grande caisse, des objets dedans, c'est le magnétophone, l'espèce d'instrument bizarre. Et ces bocaux suspendus tout en haut. Et des paravents, les chambres à coucher des deux acteurs qui jouaient
les savants fous.
Les savants fous, les archéologues, appelons-les comme on veut. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce plateau esthétiquement, cette idée des bocaux dans lesquels ils enferment les sons une fois qu'ils les ont recréés, les paravents qui permettent un jeu d'ombre et de lumière?
Moi j'ai trouvé que le plateau, et ça par contre j'ai vraiment accroché à l'univers au début de la pièce parce que il y a une utilisation de l'espace sur le plateau qui est intéressante, il y a beaucoup de choses très différentes. Les paravents qui faisaient la chambre des scientifiques, il y avait des jeux d'ombre avec une lumière qui était derrière, on voyait leurs ombres se déployer, j'ai trouvé que c'était vraiment... beau et comme les bocaux dont tu parlais, avec tout le jeu à chaque fois quand ils enferment le son dans un bocal, il y a un geste qui revient. Ça j'ai beaucoup accroché, j'ai trouvé ça très intelligent et très intéressant et en contraste en fait avec le reste, et c'est ça qui m'a déçu tout simplement.
Moi je voulais juste aussi souligner la différence entre les tailles des comédiens. Enfin, le garçon ou l'homme est très 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 grand et la fille est toute petite, et du coup ils ont des manières de jouer qui sont complètement à l'opposé, et ils jouent vachement là-dessus sur la différence de taille quand il lève la main, quand elle doit monter sur une échelle pour piocher dans un petit pot la cassette du bruit qu'ils doivent reproduire aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et les personnages m'ont semblé... Enfin, moi, je les ai trouvés très attachants. Un côté comme ça, très, très sympa, et même comique, avec un beau potentiel comique aussi.
Oui, avec la démarche différente entre les deux acteurs, les petits pas très cadencés de l'actrice, les pas plus amples, la démarche plus assurée de l'acteur. Alors, eux, ce sont les personnages qu'on voit pendant les scènes de jour, et pendant les scènes de nuit, il y a des danseurs. Cette opposition entre les scènes de jour et les scènes de nuit, est-ce que vous avez trouvé ces deux types de scènes réussies? On vient de parler des scènes de jour, mais alors les scènes de nuit où il y a à la fois de la danse, de la musique derrière, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi, ça m'a laissé très perplexe parce que j'ai pas compris ce qu'elles apportaient à l'intrigue, à l'histoire. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est que si je ne savais pas que c'était l'histoire de deux scientifiques qui tentent de recréer des sons, je pense que je l'aurais pas vraiment compris en voyant la pièce, et notamment à cause de ces scènes de nuit qui sont très belles. Enfin, vraiment, en soi, j'aurais accroché à ces scènes si je les avais vues seules, mais là, j'ai pas compris ce qu'elles apportaient à l'intrigue, j'ai pas compris ce qu'elles venaient faire là, tout simplement, et elles m'ont vraiment laissé perplexe malgré leur esthétique très réussie.
De l'esthétique
réussie.
Pour de l'esthétique dont on comprend pas forcément le sens. Donc.
Oui, voilà.
Et toi, Maëlys ?
Moi, enfin, je sais pas, la première scène de nuit, au moment où on voit le fantôme qui apparaît derrière le paravent, et à un moment, je pensais que c'était le drap qui était mal mis, où il y avait un nœud, et en fait, elles font vraiment très peur. Moi, je trouve que ces scènes de nuit, elles sont très étranges. L'éclairage est très beau aussi. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit des fantômes qui viennent chaparder les bruits ou mettre un peu de bazar dans le... Enfin, que ce soit un élément perturbateur, en fait, avec le jour, la nuit, et qu'après, dans les séquences répétitives, parce qu'il y a 4 séquences en tout, 2 séquences de jour, 2 séquences de nuit, les deux séquences suivantes, ce soit un peu perturbé ou que les scientifiques soient un peu bouleversés. Est-ce que, comme tu l'as dit, à un moment, dans la deuxième séquence de jour, le matin, quand ils se réveillent, on entend un petit bruit étrange, et là, on se dit, ça y est, ça va démarrer, va y avoir un truc...
Un élément perturbateur,
perturbateur, des beaucoup déplacés, voilà. Et l'autre chose aussi qui m'a... Un chouïa déçu dans les scènes de nuit, c'est il y avait des instruments qui étaient utilisés. Il y avait un violoncelle et un... Je sais même pas ce que c'est l'autre.
Il y avait une espèce de trompette.
Une trompette. Et ça faisait vraiment
un
des
saxophone,
bruits
je crois.
Étranges et intéressants. Il y avait aussi des percussions.
Oui, oui.
Et
oui.
En fait, les personnes qui en jouaient étaient tout le temps en fait, dans l'ombre. Et on savait pas du coup si c'était du son qui était créé sur scène ou du son qui était enregistré, on voyait à peine quoi. Et je trouvais ça un peu décevant, pour un spectacle qui se veut créateur de bruit, etc. On aurait au moins aimé voir c'était quoi l'instrument qu'il jouait pour avoir ces sons-là. Et voilà. Et après, c'est vrai qu'au niveau de la gestuelle était très belle, très simple, etc. Mais un peu statique aussi, moi, des fois. C'était très onirique, mais un peu lent.
On parlait de la musique. J'aimerais revenir sur un aspect. Il m'a semblé qu'on pouvait peut-être reprocher à ce spectacle d'être un peu hermétique. Alors, je m'explique au sens où ce que dit Clément, c'est que l'intrigue n'est pas forcément très lisible si on n'a pas été briefé au préalable sur...
J'avais pas été briefé du tout, moi. J'avais même pas compris que les bruits avaient disparu sur Terre.
D'accord.
Enfin, je pensais qu'ils étaient juste.
Pour ça qu'on t'a recruté, Maëlys. Tu es la naïve de service qui se pointe en ne sachant rien. En plus, c'est vrai qu'il n'y avait pas de résumé spécialement sur le livret. Et la musique aussi, pas la recréation des sons de jour, mais la musique qui est employée de nuit, et en particulier la musique qui surgit à la toute fin de la pièce quand les monstres ou les fantômes libèrent les sons. Alors, une musique quand même très, très contemporaine, pas forcément... Enfin, quelque chose qui nécessite d'être familiarisé avec ça avant, qu'on n'apprécie pas a priori, comme on peut apprécier un certain type de musique de manière plus immédiate. Est-ce que c'est gênant, ça, ce côté peut-être un petit peu hermétique
Moi, la musique m'a pas choqué plus que ça. À la limite, moi, j'ai plutôt accroché à l'univers musical. Donc, le défaut de tout ça, encore une fois, c'est que c'est lent et qu'on voit pas bien où ils veulent en venir. Mais en soi, si j'avais assisté juste à ça comme simple spectacle esthétique, on m'avait dit, tu vas voir, il y a un spectacle de danse, vas-y, c'est cool. Je pense vraiment que j'aurais apprécié. Parce que moi, l'univers sonore m'a plu de manière générale.
D'accord, donc tu leur reproches peut-être un peu d'avoir essayé d'interpoler une intrigue, mais qui est en même temps pas assez développée et assez explicite pour que ce soit vraiment utile.
Puis au-delà de ça, j'ai vu la pièce, et après j'ai eu le temps de lire le petit livret qui nous présentait la pièce, et j'ai trouvé ça... j'ai trouvé que c'était beaucoup d'ambition, extrêmement pompeux, pour un spectacle qui n'allait pas du tout au bout de ce qu'il nous promettait, en fait.
D'accord, t'es de cet avis, Maëlys ?
Enfin, moi, juste pour revenir sur les bruits, je pense que c'est accessible parce qu'on voit les bruits en train de se créer avec c'est fait de manière très ludique, c'est lent, etc. Et donc, on voit tout et je pense que c'est facile de rentrer dedans avec les bruits qui sont en train de se créer. Bien sûr, si on écoute ça chez soi, dans son salon, on comprend rien, quoi. Enfin, ça fait très musique contemporaine, complètement perché. Mais après, sur scène, je trouve que ça rendait pas mal.
Un petit mot pour conclure. On n'a pas vu de bison, mais est-ce que vous retourneriez les voir quand même, Clément ?
Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Et toi, Maëlys ?
Moi, si jamais ils changent complètement la trame de la pièce, s'ils mettent une intrigue, j'entends de les voir. Sinon, non.
D'accord. Merci à tous les deux. Comme promis en début d'émission, je reçois maintenant les metteuses en scène d'Orlando, une pièce à retrouver en Théâtre Cantor du 4 au 6 mars à 20h30. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et bonjour Capucine.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous nous jouez ce soir ?
Alors, nous jouons Orlando, qui est une adaptation théâtrale du roman du même nom de Virginia Woolf. Alors, Orlando, du moins le roman, raconte donc l'histoire d'un jeune lord qui débute sa vie à l'époque élisabéthaine. Donc, le roman raconte sa vie et il se trouve que il traverse à la fois les époques et les sexes, puisque l'histoire commence au début du XVIIe, tandis qu'elle se finit dans le roman en 1920. Et au milieu de sa vie, Orlando s'endort pendant une semaine, personne ne parvient à le réveiller, et quand il se réveille, c'est une femme. C'est d'ailleurs cet angle-là que nous avons choisi de travailler principalement, plutôt que tout le défilé des époques du roman.
Même si nous traverserons quand même les époques.
Parce que c'est quand même une histoire de temps long. Dans le roman de Virginia Woolf, ça s'arrêtait en 1920. Vous arrêtez aussi en 1920 ou ça va un peu plus loin ?
C'est une question délicate. Parce qu'on arrête à la fois avant et potentiellement après. C'est-à-dire que notre point duquel la parole se fait est plutôt situé dans l'époque actuelle. Mais après, on ne suit pas le roman jusqu'en 1920, par contre.
Alors, comme je fais quand même des efforts et que je me documente et que je vais sur le site d'Enseigne, j'ai vu que... Alors, certes, c'est une adaptation. Alors, adaptation qui parle du coup d'un autre personnage qu'Orlando, Harry ou Ariette. Je pense que c'est à vous de en parler un petit peu plus abondamment. Et d'abord, est-ce que c'est Harry ou est-ce que c'est Ariette ?
Alors ça, est-ce que c'est Harry ou est-ce que c'est Ariette ? Eh bien, on peut sans doute dire que ce fut Harry, que c'est Ariette, et à la fois les deux en même temps, en fait. Bon, on va quand même pas vous en dire trop sur le spectacle, parce qu'il faut quand même garder la surprise. Mais toujours est-il que ce personnage, en fait... C'est pas tant que le spectacle parle de lui, mais qu'il parle à partir de lui, puisqu'en fait, c'est lui qui raconte l'histoire d'Orlando. Enfin, c'est elle, du coup.
Oui.
Oui, à partir du moment où on a des histoires de changement de sexe, on a vraiment beaucoup de problèmes avec le langage et les pronoms. Alors, du coup, il, elle, c'est assez complexe. Mais toujours est-il que c'est donc l'archiduchesse Ariette de Finsteraar, née de Scandoboom, qui raconte l'histoire d'Orlando. Et l'introduction de ce personnage est en fait liée à notre recherche en fait esthétique sur l'adaptation où on avait vraiment envie de travailler sur le cabaret et du coup d'avoir un maître de cérémonie quelque part qui présente Orlando comme une série de numéros puisque chaque époque pouvait constituer en soi un numéro. Et donc on a choisi de faire du maître de cérémonie un personnage du roman, donc Ariette, qui existe effectivement dans le roman de Virginia Woolf, qui présente en fait la vie d'Orlando, et on a imaginé que, puisque Orlando traverse les époques elle aussi, et que elle arrive même dans notre époque contemporaine pour nous parler de ses souvenirs avec Orlando.
Donc succession de tableaux. Alors comment ça s'est passé ce travail d'adaptation du livre ?
Alors, donc, c'est moi qui me suis chargée de la partie écriture et Camille, c'est vraiment la partie mise en scène. Et donc, j'ai également, en fait, j'avais fait une première version, moi, d'écriture, au début, dans le cadre d'un atelier d'écriture, et que j'avais un peu laissé de côté, disons. Et c'est Camille qui, en pouvant lire cette adaptation, a décidé, de la mettre en scène. Et à partir de là, comme c'était un travail qui était finalement pas tout à fait achevé et n'avait pas forcément d'unité thématique, c'est aussi Camille qui a beaucoup apporté cette unité-là. Pour moi, ça a aussi été du coup très intéressant de la retravailler l'écriture en fonction de ce qu'on a fait, des exercices qu'on a commencé à faire en résidence, sur cette question aussi du passage... dans ma femme. Du coup, la réécriture s'est fait aussi au fur et à mesure des répétitions.
Alors moi, je n'ai pas lu Orlando, par exemple, de Virginia Woolf. En revanche, j'en ai vu l'adaptation par Sally Potter en film. Mm-hmm. Est-ce que ça a influencé votre travail, ce film-là aussi ?
Bah, à vrai dire, on l'a vu après avoir commencé à travailler. On s'est fait un visionnage de troupe du film, justement.
Grande séance cinéma tous ensemble.
Voilà, c'est ça. C'était assez intéressant de visionner le film dans l'adaptation, justement, puisque à la fois on a reconnu des choix qu'on avait fait, enfin que Capucine du coup avait fait dans l'adaptation, et d'autres complètement différents. Et même dans l'univers qui est créé. Et par contre, ça dit aussi que pour adapter Orlando, il faut créer un univers, en fait. Donc, effectivement, on en a choisi un vraiment différent. mais qui conserve quand même pas mal, enfin notamment dans l'humour et dans le ton de l'adaptation de Sally Potter en fait.
Et aussi un peu dans le personnage d'Orlando, ce même problème qui en même temps ce qui le rend intéressant dans l'adaptation de Sally Potter comme dans la nôtre, ce personnage qui reste un peu insaisissable quoi, qu'on n'arrive pas vraiment à savoir qui il est, si finalement il est très normé à chaque fois dans son époque, ou si il est en décalage, s'il est stupide ou s'il est intelligent, bon, ça reste toujours, il n'y a pas d'indication qui transparaît sur ça, et c'est ça aussi qui rend ce personnage vraiment intéressant.
Alors, donc il est question d'un personnage qui change de sexe au cours de ça. Très longue existence. Donc quand même une pièce autour de la question du genre, comme l'était le roman de Virginia Woolf. Le genre, c'est une question, moi, par exemple, qui m'intéresse. Donc déjà, merci d'en traiter sur scène. Donc je rappelle pour nos auditeurs que le genre, c'est une distinction culturelle entre le masculin et le féminin par opposition au sexe, qui est une distinction biologique entre mâle et femelle, pour faire ça de manière un peu schématique et résumée. Et donc, ça signifie qu'on peut, par exemple, naître d'un sexe qui ne correspond pas à notre genre. Quelle est un peu votre intention derrière ça dans la pièce ? Est-ce que vous avez un peu une note d'intention dont vous voudriez faire part aux auditeurs ?
Alors en fait, je pense qu'on n'a pas vraiment une note d'intention, mais plutôt une volonté de travailler cette question du genre en pratique en fait. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le genre c'est une distinction entre une dimension sociale du féminin et du masculin et des données biologiques. Mais justement, il y a un troisième terme là-dedans qui est d'ailleurs posé par Judith Butler dans Troubles dans le genre, qui est la performativité, c'est-à-dire que du coup on a des données anatomiques et après on a une identité de genre, mais le passage entre les deux est en fait quelque part théâtral. Et du coup, forcément, quand on travaille sur un matériau où il y a un changement de sexe, ça implique travestissement. Et donc, qui dit travestissement dit aussi performance du sexe opposé. Et c'est majoritairement ça qui nous a intéressé au plateau, et on a essayé de faire varier cette thématique-là aussi souvent que possible. Et c'est vrai que ça a été vraiment un des axes de notre travail de rechercher comment est-ce que au plateau on cherche ce que c'est qu'être homme, qu'être femme visuellement dans la marche, l'assise, la voix, enfin tout ce qui constitue les reconnaissances sociales de l'homme et de la femme en dehors des données biologiques en fait. Et comment est-ce qu'on peut jouer avec à la fois l'identité de genre, donc qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin, mais aussi avec le corps, puisque effectivement c'est des données biologiques, mais il me semble que ça nous arrive assez souvent de croiser des gens dans la rue en se demandant mais est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, et de fait le corps ne donne pas l'identité, ne donne pas la reconnaissance, et du coup comment est-ce qu'on joue avec ça.
C'est passé par des séances d'observation avec tout un temps qu'on s'est donné aussi un jour pour sortir un peu partout dans Lyon et observer vraiment dans le métro, dans la rue, aux terrasses de café, qu'est-ce qui différenciait dans les positions la façon dont s'asseyaient des femmes, dont s'asseyaient des hommes, et ça a été très intéressant parce que en fait c'est quelque chose auquel on fait pas spécialement attention
quand on marche toujours dedans,
voilà, tous les jours. Et quand on se centre sur cette question, quand on regarde avec ce prisme, tout d'un coup il y a vraiment des aspects évidents mais qui ressortent et dont on voit tout ce qu'ils ont d'étrange en fin de compte de ces différences là.
Un exemple de cette démarche dans votre mise en scène, que vous pourriez donner un exemple un peu précis.
Alors de toute façon tout ce travail sur le corps se retrouve en fait dans plusieurs personnages, mais pour vous donner un exemple de ce qu'on a pu observer de fait dans nos séances d'observation, comme le dit Capucine, on a remarqué que dans la marche en fait le mouvement de balancier de l'homme et de la femme est vraiment différent, c'est-à-dire que l'homme a en fait le haut du corps très délié. Tout le balancier qui est nécessaire à la marche se fait au niveau des épaules. Bon, après, les hommes bougent plus ou moins leurs épaules. Tout le monde ne roule pas des mécaniques ostensiblement.
En permanence, oui.
Mais le fait est que, du coup, on a un point de rigidité au niveau du bassin et que, par contre, ce sont les épaules qui permettent le balancier de la marche. Tandis que la femme est extrêmement rigide au niveau du buste. Pas forcément poitrine en avant, mais au moins une certaine rigidité. Les bras plus près du corps que l'homme et, du coup, le balancier se fait au niveau du bassin. Ce qui fait qu'on a des démarches démarche vraiment très différente d'homme à femme, et que quand on les travaille au théâtre, c'est assez difficile en fait de passer d'une démarche à l'autre, et on s'aperçoit qu'il y a vraiment des différences.
Et notamment dans les comédiens et comédiennes qui ont justement à faire ces passages, où du coup quand ils s'habituent à une démarche qui n'est pas forcément la démarche de qui correspond à celle de leur sexe d'origine en tant que personne acteur, ils ont après du mal à repasser dans l'autre sens, dans la démarche qui devrait leur être plus naturelle finalement.
Preuve que c'est pas donc si naturel que ça, voilà. N'est-ce pas? Alors du coup, donc c'est un travail d'observation que vous avez fait seulement toutes les deux, ou en emmenant aussi les acteurs?
En emmenant tout le monde.
D'accord. Grande expédition de groupe.
C'est ça.
Observer les gens dans Lyon. D'accord. Alors bah, justement, on va parler un peu de cette troupe, la troupe XXY, donc nom quand même connoté.
Alors, on va dire, elle est encore en cours de constitution.
Il manque des acteurs, c'est ça?
Il ne manque pas d'acteurs, il manque surtout un cadre administratif, à vrai dire.
D'accord.
Mais du coup, bon, on a longuement réfléchi au nom qu'on allait se donner. Donc, la compagnie XXY s'est formée autour de ce spectacle et est encore en cours de formation, au moins sur le plan administratif. Et c'est vrai que c'est surtout à notre initiative, à Capucine et moi, de vouloir travailler sur plusieurs thématiques, en fait, bon, la question du genre notamment, avec théâtralement le travestissement et tout le travail qu'on peut élaborer à partir de ça, mais aussi celle de l'écriture, puisque finalement le travail au plateau se fait vraiment en parallèle avec celui de l'écriture, et d'avoir une troupe assez paritaire quelque part, puisque du coup on a quatre comédiens et quatre comédiennes qui jouent d'ailleurs pas forcément des rôles féminins et masculins en fonction de leur sexe anatomique, on va dire, qui d'ailleurs sont très différents les uns des autres, puisque certains sont des étudiants de l'ENS ou d'ailleurs, d'autres sont des comédiens professionnels, et on a une amplitude d'âge assez dingue, puisque c'est à peu près entre 18 ans et 55 ans, et ça marche plutôt bien.
Ouais, mais on espère que ça continuera toujours aussi bien. Merci Camille, merci Capucine d'être venue. Donc, chers auditeurs, je vous rappelle que le spectacle aura lieu du 4 au 6 mars à 20h30. C'est Orlando, un spectacle proposé par En Scène.
Merci.
Voilà, ce sera donc la virgule que vous aurez beaucoup trop entendue aujourd'hui, chers auditeurs. Merci d'avoir suivi ce numéro d'En Spectateur. Je remercie Adrien, Clément et Maëlys, chroniqueurs dans les scènes de jour. Clément et Nicolas, régisseurs aux commandes de la technique dans les scènes de nuit. Le prochain numéro sera donc le retour critique sur Orlando, vous l'avez compris. Mais ensuite, il se pourrait fort que vous découvriez de nouvelles voix dans En Spectateur, des voix qui vous emmèneront au spectacle ailleurs qu'en Théâtre Cantor. Je ne vous en dis pas plus. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
En Spectateur, spectateur.